Elle accompagne vos nuits. La Libre Antenne, Sabrina Philippe sur Europe 1.
C'est une joie de vous retrouver ce soir pour notre rendez-vous, un petit rendez-vous au cœur de la nuit sur Europe 1 pour nous parler, nous réchauffer au son de nos voix. C'est vous qui faites cette émission, alors Amandine et Hassan attendent votre appel au 3921 et puis bien sûr vos réactions, vos conseils par SMS au 73921 en commençant vos messages par le mot « nuit ». Qu'allons-nous nous raconter ce soir ? La parole est à vous. C'est Fabrice qui est aux manettes avec nous ce soir. C'est la Libre Antenne, vous êtes sur Europe 1 et c'est parti.
Sur Europe 1, Sabrina Philippe vous écoute et vous accompagne.
Et on se retrouve tout de suite. Vous êtes sur Europe 1, c'est la Libre Antenne et c'est Alexia qui nous rejoint pour commencer cette émission. Bonsoir Alexia.
Bonsoir.
Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir.
Bah, je vous en prie, avec plaisir. Alors, moi, je vous appelle. Ça concerne ma relation amoureuse.
Oui.
Voilà. Donc, comme je l'expliquais un petit peu avant, ça fait 2 ans que je suis avec quelqu'un qui a 10 ans de moins que moi.
Mmh. Vous avez quel âge, vous, Alexia?
Alors, moi, j'en ai 40.
D'accord. Donc, il en a 30.
Il en a 30. Ouais, voilà, c'est ça. 31, mmh. Il a eu. Et donc, en fait, au bout d'une année et demie, ça a un petit peu explosé parce que il y avait pas mal de différends sur, en fait, sur l'avenir, en fait, du couple où, voilà, il désire vraiment faire quelque chose avec moi. Moi, je lui ai dit aussi ce que je souhaitais. Donc, moi, c'était vraiment après, voilà, être avec quelqu'un. S'installer, se mettre sous le même toit, mais sans précipitation. Hein. Ça fait 2 ans qu'on est ensemble et chacun vit encore chez soi. Moi, j'ai un petit garçon qui a 10 ans.
D'accord. Ça se passe bien et avec votre petit garçon ?
Ils s'entendent bien ? Oui, ils s'entendent plutôt bien. Vu qu'il est quand même jeune, du coup, ça passe bien. Oui, c'est une bonne entente. Voilà. Et en fait, au bout d'un an et demi, donc il y a eu une cassure qui a duré un mois. Si vous voulez.
Qui a provoqué cette cassure ?
C'est moi.
Ouais.
C'est moi. Et ça a duré un mois. Et au bout de on s'est vu un petit peu pendant le mois, si vous voulez. Mais voilà, tout en étant plus ensemble, parce qu'on n'était quand même pas fâchés. On s'est croisés quelques fois, mais voilà, au bout d'un mois, on a décidé aussi d'essayer de se redonner une chance et d'essayer de régler certaines choses. Et en fait, le problème principal, c'est que lui, il est très, très indécis. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a jamais eu de vie de couple auparavant non plus, qui n'a jamais vécu avec quelqu'un non plus. Moi, j'ai une expérience avant de vie de couple qui a duré 8 années avec le père de mon fils. Et donc là, je me retrouve face à quelqu'un qui, un coup c'est oui, un coup c'est je sais pas. Et souvent, je me retrouve avec quelqu'un qui est très, très indécis dans ce qu'il me dit. C'est-à-dire que quand on va discuter, que ça va bien se passer, on va dire OK, donc on va s'installer. Si ça se passe bien, d'ici 2-3 ans, on pourra même acheter. Et puis après, je sais pas, moi, un mois après... Il va être complètement dans l'indécision, il ne sait pas ce qu'il veut, il ne sait pas. Alors, ça finit avec des « je ne sais pas », donc moi qui m'agace plus que fortement, puisque ça fait quand même 2 ans qu'on est ensemble, même si on ne vit pas ensemble, on ne vit pas loin l'un de l'autre. Et le projet quand même commun, c'est bien de s'installer tous les deux. Et je me retrouve face à quelqu'un qui est un peu quand même en mode girouette, et moi, ça finit par me rendre un petit peu... Bah, moi, ça m'inquiète déjà, parce que moi, je lui dis quand même clairement, on a eu l'occasion aussi d'en discuter, donc il sait clairement ce que je veux moi. Lui, il semble d'accord parfois, on va dire quand ça va, et quand ça va moins bien, ou même sur voilà, même si c'est, on se fréquente, même si c'est un couple, pour moi, c'est quand même quelqu'un qui, à un moment donné, deux personnes qui vivent sous le même toit. S'il y a des périodes où moi, je vais être plus fatiguée, j'ai des choses à faire, on se voit moins, alors lui, ça le perturbe complètement. Et après ça, alors il sait plus, et je me retrouve face à quelqu'un qui me tient le discours, il sait pas si la routine, si il sait plus, il sait plus. Donc moi, ma question, c'était, je ne sais plus comment prendre pour discuter de ça, puisque quand on n'a rien discuté de ces choses-là, j'ai l'impression de tourner en rond. Et en plus de me retrouver face à un, comme je disais, un grand adolescent qui me répond, je ne sais pas. Et moi, moi, je commence sérieusement à gonfler ce comportement-là. Je ne veux pas m'énerver, je me suis déjà énervée par rapport à ça, donc je ne veux pas retomber là-dedans. Que c'est quelqu'un, voilà.
Alexia, peut-être que tout simplement, oui. Il ne se sent pas prêt, en fait.
Mais c'est ce que je lui ai dit, et c'est ce que je lui ai dit, mais il n'est pas capable de me répondre clairement. Il dit oui, peut-être, je ne sais pas.
Mais son attitude, en tout cas, même s'il n'arrive pas à le dire,
ouais.
Son attitude d'accord. En témoigne.
D'accord, oui, c'est ce que je me dis aussi, mais j'avais besoin d'un avis extérieur quand même. Parce oui. que...
Parce que, a priori, là, c'est pas une question de sentiment amoureux. Lorsque vous vous êtes séparés, finalement, vous avez continué à vous voir. Il n'a pas souhaité une séparation avec vous.
Non, non.
Il souhaite pas se séparer, mais il ne se sent pas prêt à s'engager dans une vie de couple plus installée, on va dire.
Oui, oui. Alors, après, c'est là où il est contradictoire parfois, parce qu'il y a des moments où il va me réclamer qu'il veut être plus avec moi, qu'il veut plus être dans un quotidien avec moi. Et à côté de ça, des fois, il va me tenir un discours complètement opposé à ce qu'il va m'avoir dit. Il a peur, oui, une peur de l'engagement, ça, ça c'est clair et net. Hein. Mais voilà, moi, je lui ai dit, moi, face à quelqu'un comme ça, je ne vais pas pouvoir tenir bien longtemps non plus, quoi. Puisqu'on n'a pas...
Qu'est-ce qui est difficile à vivre pour vous, Alexia, dans cette situation? Parce que finalement, les sentiments sont là.
Oui. Ce qui est difficile, c'est d'avoir quelqu'un comme ça qui, dans l'indécision constante ou régulière, pour moi, ce n'est pas un gage de sécurité. Je me dis que si on emménage ensemble, est-ce qu'il ne va pas me péter dans les mains au bout d'un an ou deux, quoi? Alors que moi, maintenant, à 40 ans, j'aspire quand même à quelque chose de plus calme. Voilà.
Oui, mais lui, il n'a pas 40 ans.
Oui, je sais bien, ouais, je sais bien.
Vous ne pouvez pas, de toute façon, le forcer, entre guillemets,
hein,
en lui mettant
c'est
la pression.
Que je dis.
Parce que ça ne tiendra pas.
Dis,
ça ne tiendra pas.
Oui. Je lui dis, je veux pas te forcer, mais par contre, je veux pas le forcer, mais je veux pas non plus attendre encore 2-3 ans comme ça dans l'incertitude. Je sais pas si je me sens pas tenir comme ça avec quelqu'un qui sait pas et qui regarde dans le vide quand on je lui pose la question et je lui ai dit, je ne te forcerai pas. Si tu veux pas, d'accord, mais moi je vais prendre des décisions par contre derrière.
Oui, en même temps, quand vous dites ça, c'est aussi lui mettre un ultimatum. Donc,
vous
lui mettez d'une certaine façon la pression. Et ça,
oui.
Ça ne peut pas fonctionner, Alexia.
Oui,
ça
d'accord.
Peut pas fonctionner, en fait. Parce que s'il n'est pas prêt, ça le met au pied du mur, vous comprenez?
Oui.
Et ça le met encore plus dans cette incertitude. La décision, elle doit venir de lui à l'intérieur. Vous ne pouvez pas la forcer, cette décision.
Ah oui, non, oui, bien sûr. Ouais.
Pourquoi c'est si important pour vous de vivre avec lui?
Moi, au départ, pas tant que ça, en fait. C'est surtout lui qui a beaucoup insisté, plus dans le début de notre relation, à vouloir être plus avec moi, justement. Parce que moi, j'étais parfaitement capable d'attendre. Ça fait 7 ans que je vis seule avec mon fils. Donc, je suis pas à quelques années près, mais... À un moment donné, le problème s'est posé quand ça a explosé au bout d'un an et demi. Le problème, c'était ça, c'est qu'il me reprochait de ne pas me voir assez et qu'il voulait vivre un quotidien avec moi. Et quand ça se précise un petit peu, il fait des marches arrière comme ça. Donc moi, je me perds aussi un peu dans tout ça.
Oui, j'entends parce que c'est assez confus.
Oui, oui. C'est quelqu'un qui est assez complexe quand même, hein, voilà, mentalement parlant, on va dire. Et puis plus jeune, avec pas la même expérience que la mienne. Bon, on a chacun les nôtres. Et je suis quand même, on va dire, la première femme avec qui il a une histoire plus importante, quoi, qui dure. Donc, je sais pas, moi, c'est ma peur après, c'est ça, c'est ce que je me dis, on s'installe ensemble et qu'au bout de 2 ans, il me disait, ah ouais, non, j'en ai marre, je veux plus, et voilà.
J'ai l'impression que vous avez besoin d'être très rassurée, Alexia. Parce que quand vous dites, ce qui me fait peur, c'est qu'on s'installe ensemble et qu'au bout de 2 ans, il puisse me dire, je m'en vais.
Ouais.
Mais en fait, en amour, on n'a aucune certitude. C'est pas parce qu'il va s'installer avec vous que votre histoire va durer. Et peut-être même, vous pourriez rester comme ça, chacun dans vos appartements, et que l'histoire dure 20 ans. C'est pas le fait de s'installer ensemble qui fait l'histoire.
Oui, oui, bien sûr. Mais je lui dis aussi, ça, je lui dis aussi, je lui ai vraiment verbalisé ce côté-là en lui disant qu'effectivement, en amour, il n'y avait pas de certitude. Mais moi, j'ai essayé vraiment de faire un effort par rapport à sa demande de départ qui était « je veux être plus avec toi ». Et maintenant que j'ai dit « ok », eh ben là, il ne sait plus. Donc moi, oui, moi, ça met dans une position et c'est que je ne sais plus comment l'aborder, ce garçon. Je ne sais plus comment faire pour m'exprimer comme il faut avec lui, ne pas m'énerver finalement et ne pas tout lâcher, quoi. Parce que là, j'arrive à un stade où moi, je sature, en fait.
Et
donc,
qu'est-ce qui vous... J'ai un peu de mal à comprendre, pour être honnête, Alexia.
Oui,
qu'est-ce qui vous fait saturer exactement? Parce que, est-ce que vous avez de bons moments ensemble tels que vous vivez votre vie aujourd'hui?
Oui.
Est-ce que c'est agréable? Oui. Est-ce que votre vie est agréable telle qu'elle est aujourd'hui? C'est-à-dire chacun dans vos appartements, vous vous voyez certainement assez régulièrement. Est-ce que vous passez des bons moments?
Oui, on passe des bons moments, oui, bien sûr.
Et pourquoi ça ne pourrait pas se poursuivre, ça?
Bah, c'est ce que je lui avais proposé au départ, mais ça ne lui convenait pas. Donc j'ai cédé en disant, ok, si tu veux, il est en train, lui, de... Il est dans un projet maison, il a sa maison, il est en plein travaux dedans. Il finit aussi des études, donc là, il a fini ses études, il a obtenu son diplôme. Moi, à côté, moi, je travaille pas mal, assez, beaucoup aussi. Donc, voilà, finis ta maison, passe ton diplôme, obtiens-le. Et à partir de là, quand tu vas pouvoir, toi, trouver du travail, on va pouvoir, moi, j'en ai un, se projeter pour se trouver déjà dans un premier temps une location, pour le coup. Pas d'acheter là dans la foulée tout de suite. Donc moi, je lui ai proposé parce qu'il me reprochait que lui, ce qu'il voulait, c'était un quotidien avec moi. Mmh. Et maintenant qu'on y arrive, sa maison prend forme, que son diplôme est là, qu'il va pouvoir aller chercher du boulot, il ne sait plus quoi. Donc, oui, moi, je pourrais peut-être effectivement lui reproposer comme ça du chacun chez soi, mais bon.
En tout cas, il ne semble pas prêt. Et ça si vous tenez l'un à l'autre,
oui.
Voilà, ça me semble le plus logique, je dirais presque le plus raisonnable pour le moment, c'est-à-dire de mettre ce sujet un peu de côté, parce que à force, ça doit créer des conflits.
Donc
mettez ce sujet de côté pour garder ces bons moments et puis que les choses se fassent naturellement.
D'accord.
Que ce soit une évidence pour tous les deux.
Oui.
Vous voyez, pas un ultimatum, pas parce que ça ne fonctionne pas les ultimatums en général.
Non, c'est sûr. Bah oui, parce que là, ça va pas fonctionner longtemps. C'est moi qui vais lâcher là. Parce
donc, j'en peux plus, si vous passez des bons moments tels qu'ils sont aujourd'hui, laissez passer un peu de temps. Il est à peine installé, finalement, dans ce que vous dites. Il a à peine eu son diplôme.
Oui.
C'est très récent.
Oui, en plus, c'est quelqu'un qui n'avait pas de qualification. Je l'ai un peu poussé aussi pour ces choses-là, bon, vu qu'il est beaucoup plus jeune et qu'il n'y voyait peut-être pas forcément un intérêt. Je l'ai aussi poussé à reprendre ses études pour passer ce fameux diplôme, ce qu'il a fait, donc c'est très bien. Donc, voilà, pour... Mais je lui dis pour surtout aussi pour lui, et puis voilà, pour peut-être un meilleur avenir, entre guillemets. C'est toujours mieux, peut-être un peu plus facile. Déjà, quand on a des diplômes, c'est pas toujours facile, mais sans diplôme, c'est encore plus difficile, on va dire ça comme ça. Donc, j'ai essayé de le pousser aussi, lui, dans le bon sens, même pour lui, même si pour nous, ça se concrétise pas, au moins, bah voilà, il aura au moins ça en poche, et puis pouvoir peut-être aspirer à une meilleure qualité de vie avec un job, et voilà. Donc, voilà, après, c'est...
Bon. Voilà, moi je pense vraiment, Alexia, qu'il faut laisser ce sujet de côté là. C'est
d'accord.
Ça devient, j'ai l'impression que ça devient un peu obsédant et du coup ça va gâcher, entacher votre relation.
Oui.
Vous voyez ?
Bah oui.
Hein ?
Oui.
Donc laissez un peu ça de côté, laissez-le faire un peu son chemin.
Oui.
Et puis vous verrez comment les choses
d'accord.
se font. Ça doit se faire naturellement
oui.
ces choses-là et dans la joie, pas dans la contrainte.
Oui. Tout à fait. Tout à fait.
S'installer ensemble, ça doit être vraiment d'un commun accord, avec une perspective vraiment joyeuse. S'il n'est pas prêt, il n'est pas prêt.
Tout à fait, ouais. Ben, moi, je n'étais pas plus que ça au départ. Hein. J'ai vraiment... J'ai essayé de concilier un peu pour lui. Et finalement, je vois que... Des fois, j'ai l'impression aussi d'avoir un enfant gâté en face de moi. Et dire toujours les mêmes choses. Alors bon, oui, il a 10 ans de moins que moi, il faut que je me le mette en tête aussi, donc voilà, c'est pas...
Ah oui, non, vous avez des ajustements à faire aussi, l'un envers l'autre.
Hein. Pas toujours évident, oui, tout à fait, oui.
L'un envers l'autre.
Voilà,
mais en tout cas, mon conseil pour ce soir, pour cette situation que vous vivez là, c'est de mettre le sujet un peu de côté, de voir comment ça se passe, et de voir si ça devient une évidence pour lui ou pas. Mais de ne pas lui mettre la pression en permanence, parce que je ne crois pas que ce soit une bonne chose.
Non, je suis bien d'accord, mais en fait, je ne lui mets pas en permanence. Mais c'est qu'au bout d'un moment, c'est quelque chose qui revient, parce qu'on en a quand même parlé, et que voilà, des fois, je ne suis plus. Donc oui, c'est sûr que, comme vous m'avez dit, je ne l'obligerai pas. S'il veut pas, voilà. Après, voilà, je ne dirai plus rien, mais moi, je verrai bien comment je le supporterai. Je prendrai des décisions en conséquence dans ma tête et je lui dirai après, sans contraindre à quoi que ce soit. Et puis voilà.
Mais oui, après, chacun doit trouver son mode de vie en couple. Vous avez des couples qui ne vivent pas ensemble, qui ne vivent pas sous le même toit, et ça se passe très bien.
Oui.
Donc, il n'y a pas de modèle absolu dans le couple aujourd'hui.
Tout à fait. Hein oui.
Il n'y a pas qu'un seul modèle en tout cas. Voilà.
Oui.
Donc,
okay.
Le tout étant d'être bien ensemble, surtout. Quand on est ensemble.
Oui.
Voilà, Alexia.
Ok, très bien. Je vous remercie.
Je vous souhaite une belle soirée et puis de belles fêtes.
Merci, vous aussi.
Vous allez réveillonner ensemble demain ?
Alors, moi, je travaille. J'ai travaillé, je me lève très tôt. Je me lève à 5 heures du matin. Donc, oui, il va venir passer un petit bout. Soirée avec moi et puis où il va peut-être aller faire un petit peu la fête et voilà, je vais pas l'handicaper non plus parce que moi je travaille et pas lui quoi.
D'accord.
Donc il fera comme il voudra.
Nous en tout cas on sera là, la Libre Antenne, pour demain, pour faire ce passage vers la nouvelle année ensemble. Voilà.
D'accord,
dès 22h30 on sera là demain.
D'accord. Je vous écoute tous les soirs de toute façon.
Eh bien écoutez Alexa, je vous souhaite encore de belles fêtes et une belle nuit.
Et merci à vous.
Merci.
Oui.
Au revoir.
Au revoir.
Sur Europe 1, Sabrina Philippe vous écoute et vous accompagne. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Sabrina Philippe.
Et nous attendons vos appels au 39-21 et puis bien sûr vos réactions, vos conseils au 7-39-21 en commençant vos messages par le mot nuit. Et c'est Daniel qui nous rejoint maintenant. Bonsoir Daniel.
Bonsoir Sabrina.
Bonsoir, merci d'être là.
Eh bien, c'est moi qui vous remercie de me prendre à l'antenne ce soir. Alors, je voulais réagir à votre introduction de hier soir, où vous avez dit une phrase qui m'a interpellée, c'est « Une simple phrase peut faire changer toute une vie ».
Oui, oui.
Et je voulais apporter ce soir un témoignage par rapport à votre introduction de hier. Donc, c'est une histoire qui a démarré en janvier 2016. J'ai eu un coup de fil d'un jeune lycéen qui est en terminale. C'est un gamin qui qui avait des difficultés à l'école, qui, même s'il était en terminale S, c'était pas motivant, c'était pas, il travaillait pas forcément, sa mère avait des soucis avec lui. Et ce jeune avait, ses parents sont divorcés et ce jeune avait aucune reconnaissance de la part de son père. Pas d'encouragement, pas de rien de positif. Et donc ce gamin m'a appelé parce que il voulait des renseignements pour parce qu'il voulait devenir pilote de chasse, sachant que moi je suis pilote privé et je m'occupe de la formation du brevet d'initiation aéronautique.
D'accord.
Entre parenthèses, c'est une formation, une formation qui donne un diplôme de l'éducation nationale pour les lycéens et les collégiens et qui a objectif principal de générer des vocations aéronautiques.
Oui.
Pas que pilote, ça peut être contrôleur aérien, météorologue, concepteur d'avion, mécano aéronautique, tout ce que l'on veut. Donc j'ai passé une heure à discuter avec lui et quand il m'a dit qu'il voulait faire pilote de chasse, je lui ai déjà dit ben, « viens t'inscrire au cours du BIA, même si les cours ont commencé depuis octobre et qu'on est en janvier, moi je suis sûr que tu y arriveras, tu rattraperas les séances que tu as ratées et je suis certain que tu y arriveras ». Et je lui ai dit une phrase, mais je l'amènerai en fin d'explication, qui a dû le faire réagir. En tout cas, il s'inscrit au cours, il a suivi les cours jusqu'à la fin. J'ai eu l'occasion d'avoir un petit échange avec sa mère, qui m'a dit que depuis qu'il est inscrit au cours du BIA, il était motivé pour le BIA, il était vraiment enthousiaste. À l'école, il retravaillait mieux, donc de façon plus motivée. Quand il a passé son BIA, il l'a eu avec mention très bien. Donc moi, j'étais très content. Et il a eu son bac. Et j'ai appris un an plus tard, parce qu'il m'a recontacté, qu'il avait passé sa visite médicale pour devenir pilote de chasse. Et en fait, ce jeune homme a été boulé, dans le sens où il a un défaut aux yeux. Il est daltonien.
D'accord. Il ne le savait pas ?
Il ne le savait pas. Moi, c'est ce qui m'a toujours surpris, c'est qu'il ne le savait pas. Alors, je ne sais pas quel était le degré de son daltonisme, mais en tout cas, il ne le savait pas.
D'accord.
Donc, quand il s'est fait refouler de l'armée, ça a été un choc pour lui. Et il a décidé de se lancer en fac de médecine.
Oui. Ce qui n'est pas facile, ce qui n'est pas évident.
Tout à fait. C'est exactement la réaction que j'ai eue. Il n'a pas choisi la solution la plus simple. Et à la fin de sa première année de médecine, c'est là qu'il m'a recontacté pour me dire, voilà, j'ai pas pu faire pilote de chasse, j'ai fait médecine, et dès la première année, j'ai réussi mon concours.
Oh, quelle réussite.
Pour pouvoir passer en deuxième.
Ce qui est très rare, très très rare.
Voilà.
D'avoir le passé, oui.
C'est ce qu'il m'a dit, et c'est ce que d'autres personnes m'ont confirmé par ailleurs. Et il m'écrivait pour me le dire, pour me remercier, parce que s'il en est arrivé là, c'était grâce à moi et grâce à ce que j'avais dit la première fois que je l'ai eu au téléphone.
Et qu'est-ce que vous lui avez dit, Daniel ?
Ouais, et je lui ai dit une simple phrase qui m'a rapporté après, qu'il faut faire les efforts nécessaires pour arriver à faire ce que l'on veut dans la vie. Et cette phrase a eu une résonance chez lui, et ça l'a motivé, ça a débloqué, je dirais, toute la suite de son travail et de sa motivation. Donc, il est parti pour être maintenant médecin.
Bah écoutez, c'est formidable, c'est une très belle histoire.
Oui, tout à fait.
C'est une très belle histoire. Moi, je pense qu'il y a autre chose aussi, finalement, dans ce que vous racontez. C'est que finalement, face à ce jeune homme qui était en échec scolaire, on peut dire ça, qui avait des difficultés en tout cas scolaires, on ne peut pas parler d'échec parce qu'il était
quand même en terminale S, mais bon, en recherche de motivation.
Voilà. Il a été face à quelqu'un qui croyait en lui. Vous avez cru en lui.
C'est exactement ce que je pense. Oui.
Et le seul fait parfois de croire en quelqu'un, de croire en ses possibilités, c'est suffisant pour faire levier.
Tout à fait.
Et c'est ça qui s'est passé avec vous.
Ouais. Et quelqu'un lui disait qu'il avait toutes les capacités à le faire. C'était ça le fond du discours, le fait qu'on le prenne en cours d'année, etc., etc. C'est on a cru en lui et on lui a dit qu'il avait toutes les capacités de le faire. Et moi, j'ai pas à le regretter parce qu'il a eu son BIA et puis maintenant, la partie sur une bonne voie en tout cas.
Écoutez, c'est une très belle histoire. Merci de m'avoir raconté.
Je voulais voulais la partager et c'est votre phrase de hier soir, moi, votre introduction d'hier soir, qui m'a fait penser à cette jolie petite histoire.
Oui, mais c'est vrai que je pense vraiment que certains mots, et puis l'intention aussi qu'il y a derrière les mots. Voilà. Il y a les mots, oui. Il y a l'intention aussi qu'on y met. Il y a le cœur qu'on y met.
Exactement. Sachant que moi, je lui avais dit, comme tu prends le cours, la formation en cours de route, je viendrai chez toi un dimanche matin et tu me poseras toutes les questions sur les cours déjà passés que tu n'as pas compris. Mmh. Et quand je suis venu chez lui, donc c'était cours en mars, il avait bien potassé le document et il avait préparé toutes ses questions sur les points qu'il n'avait pas compris. Donc je pense que ma démarche aussi était de lui... Je me suis engagé vis-à-vis de lui, j'ai tenu ma parole et je lui ai permis de progresser en même temps.
Bah écoutez, c'est formidable. Ça veut dire aussi que nous sommes chacun, hein, chacun en fait, des leviers aussi pour les autres. Il suffit de croire en l'autre, de prononcer quelques mots parfois, tout simplement, de croire en ses capacités.
Et toujours encourager les autres.
Oui.
Voilà.
Bah, c'est une belle histoire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Eh ben, c'est moi qui vous remercie de m'avoir rappelé ce soir. Et puis, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis, je continuerai à écouter encore la libre antenne, un certain temps en tout cas.
Avec grand plaisir. Voilà. Avec grand plaisir. Belle nuit à vous et de très belles fêtes.
Merci. Au revoir.
Au revoir.
La libre antenne sur Europe 1, Sabrina Philippe.
Et c'est Joël maintenant qui nous rejoint. Bonsoir Joël.
Bonsoir Sabrina.
Bonsoir.
Bonsoir. Bon, je vous appelle parce que... Alors déjà, je voudrais vous remercier, vous et votre équipe. Merci à la personne qui m'a rappelé tout à l'heure. Si je vous appelle ce soir, c'est que j'ai un problème assez important.
Oui, je l'entends à votre voix en tout cas, qui est une voix assez grave, on va dire.
Oui, en fait, je suis dans une situation assez délicate depuis un an maintenant. Alors, je vais vous expliquer. J'ai une femme et une petite fille. Qui a 6 ans.
Oui.
Il y a un an, j'ai rencontré une jeune femme à mon travail.
Oui.
J'ai malheureusement fauté donc avec cette jeune femme. J'ai trompé ma femme.
Ça faisait combien de temps que vous étiez marié, Joël ?
Alors, je ne suis pas marié, en fait.
Enfin, vous étiez en couple, en tout cas, avec votre...
Ça faisait 7 ans, enfin, un petit peu plus de 7 ans que nous étions ensemble.
D'accord, et vous avez quel âge ?
J'ai 38 ans.
D'accord. Donc, vous aviez 30 ans, quoi, quand vous êtes connu avec votre
Absolument,
compagne.
Absolument, tout à fait.
C'est ça.
Tout à fait.
Et au bout de 7 ans, ça se passait comment avec votre compagne ?
Alors, ça se passait bien. Ça se passait bien, Ça se passait bien, nous voulions avoir un deuxième enfant. Désirions avoir un deuxième enfant, nous avions...
Vous avez eu votre fille assez vite, parce que si je fais le décompte, 6 ans, donc vous l'avez eu au bout d'un an de relation à peu près.
C'est ça à peu près, oui.
D'accord.
Oui. Et ça se passait effectivement bien, bon, il y avait des hauts et des bas, bien évidemment.
Oui,
ça se passait bien. Une femme dont je suis très amoureux.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous puissiez regarder une autre femme, on va dire ? Ça vient jamais par hasard.
Non, ce n'est pas effectivement arrivé par hasard. Enfin, nous vivions une période assez difficile, dans le sens où, effectivement, comme je vous le disais, donc nous essayions à ce moment-là d'avoir un deuxième enfant.
Oui.
Nous n'avons pas réussi à avoir ce deuxième enfant parce que ma femme a fait une fausse couche.
D'accord. Donc des moments plus difficiles, vous êtes un peu...
Effectivement, c'est une période assez difficile et au lieu que cet événement nous rapproche, c'est un événement qui nous a quelque peu éloignés.
Oui.
Alors je ne dirais pas que c'est ce qui a fait que j'ai fauté, parce que J'avais fauté avant cet événement. Mais
Donc vous l'aviez
effectivement,
déjà trompé?
avant, oui, avant cet événement, oui, je
Oui.
l'avais déjà trompé.
Vous l'aviez trompé souvent?
Non.
Non.
Non, non, je ne l'avais pas trompé souvent. Enfin, je l'ai trompé qu'une fois, en fait, avec, avec cette jeune femme qui est une collègue de travail.
Donc, juste pour bien comprendre, en fait, vous ne l'avez trompé qu'avec cette collègue de travail?
Tout à fait. Absolument.
D'accord. Cette rencontre avec cette collègue, en tout cas ce rapprochement, il s'est fait comment?
Il s'est fait, j'ai presque envie de vous dire, naturellement. Des affinités, des choses qui ont fait que nous aimions être ensemble et passer du temps ensemble. Alors, au départ, enfin, nous étions collègues. Après, de collègues, nous sommes passés à amis. C'était juste, voilà, une amitié toute somme classique. Et puis, est arrivé le moment où bah, cette amitié a quelque peu dévié vers autre chose. Mais voilà, pour moi, il n'y avait rien d'autre qu'une attirance, une attirance. Je vous dirais presque physique, et c'était rien d'autre que cela. Et puis voilà, et puis malheureusement, bah, nous avons donc couché ensemble, et quelques temps après, elle m'a annoncé qu'elle était enceinte. Alors pour moi, ça a été un drame. Parce que.
Alors, pour mieux comprendre, Joël, elle ne prenait pas de moyens de contraception, vous étiez au courant?
Non, non, elle ne prenait pas de moyens de.
Mais vous, vous étiez au courant?
Alors, je n'étais pas au courant à ce moment-là, en fait. J'étais au courant après. Après avoir couché ensemble, qu'effectivement, elle ne prenait pas de moyens de contraception.
Donc, elle ne vous a pas prévenu?
Non. Non, je ne l'ai pas su au départ.
Comment dire, votre relation avec cette femme, ça, elle a duré longtemps?
Bah, en fait, elle dure encore.
D'accord, mais jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte.
Oui, alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc elle m'a annoncé qu'elle était enceinte. Donc pour moi, c'était un drame. Enfin, j'ai pas pris ça comme une très bonne nouvelle. Ma première réaction, c'est de lui dire que bah je ne voulais pas, en fait. Je ne voulais pas que ça prenne une telle ampleur. Et puis j'ai dû lui dire que bah, je voulais qu'on arrête. Donc il s'est passé quelque chose qui en fait elle a très mal réagi. C'est-à-dire qu'elle en fait donc c'est arrivé au travail, hein, au travail où je lui ai annoncé que bah, c'était pas possible, que je pouvais pas me mettre avec elle. Que cet enfant, c'était pas, enfin, que je ne désirais pas, enfin, je ne le désirais pas, que pour moi c'était un accident et que pour moi c'était pas possible. Et en fait, elle a entre guillemets pété les plombs au travail. Elle s'est mise dans une. En fait, elle a. Oui, elle a pété les plombs, quoi. Enfin, et donc, elle a été donc répété ce qui s'est passé donc aux collègues qui n'étaient pas au courant de l'affaire, de l'histoire. Donc, elle a été dire aux collègues que je la quittais, qu'elle serait toute seule pour élever cet enfant, que je lui ai fait un enfant, que voilà. Et donc, moi, j'étais. Dans une situation assez délicate parce que je voulais pas auprès des collègues passer pour un salaud, on va dire le terme. Donc j'ai tenté de calmer le jeu en lui disant que bah, qu'on essaierait, mais voilà. Et puis je me suis rendu compte que psychologiquement, enfin elle m'a fait comprendre en fait que si je ne me mettais pas avec elle, elle ferait une bêtise. Elle ferait des bêtises, elle est fragile psychologiquement parlant, et voilà. Et moi, je voulais pas prendre cette responsabilité, donc, pour toutes ces raisons-là, j'ai accepté de quitter ma femme pour elle et de me mettre avec elle. Et donc, au jour d'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, je suis encore avec elle, et ça fait maintenant un an. Enfin, ça va faire bientôt un an, et je le vis mal parce que j'accepte pas la situation, parce que je suis encore très amoureux de ma femme, parce que je ne le vis pas bien, parce que en fait je j'aime pas la vie que je me suis construit, la vie qui s'est imposée à moi depuis ça. Je suis triste tout le temps. Enfin, je ne vis vraiment
pas. Et alors, l'enfant est né maintenant?
Oui, l'enfant est né, oui.
Oui.
L'enfant est né. Alors, lié à l'enfant, j'ai du mal à positionner par rapport à lui, parce que enfin, le lien a vraiment du mal à se faire. J'ai du mal à l'accepter. Donc, je m'en occupe. Hein. Mais je m'en occupe pas comme si c'était mon propre enfant, en fait. Je m'en occupe comme si j'avais à charge un enfant de ma voisine, enfin, l'enfant.
Et ça se passe, comment entre vous deux?
Entre moi et l'enfant?
Non, entre vous, déjà j'ai bien compris qu'avec cet enfant c'était compliqué, mais entre vous et cette femme?
Bah, ça se passe. Globalement, ça se passe pas mal, mais je ne suis pas amoureux d'elle, en fait. Globalement, en fait, ce que j'essaie de faire depuis que je suis avec elle, c'est que il y a des moments où ça va pas bien. Donc évidemment, je ne lis pas ce qui se passe, mais je fais semblant, en fait, très souvent. Je fais semblant d'aller bien, je fais semblant d'être bien avec elle. Et c'est vraiment difficile.
Et quelles sont vos relations avec votre ex-compagne? Est-ce que vous continuez à voir votre fille? Est-ce que...
Alors oui, je continue à voir ma fille. Et avec mon ex-compagne, ça se passe bien. Ça se passe bien, ça se passe très bien. Nous partageons des moments ensemble, tous les trois, parfois, avec ma fille. Enfin, on fait des sorties tous les trois, parfois. Mon ex-compagne sait que je l'aime encore. Elle sait que pour moi, c'est difficile. Voilà. Mais ça se passe, heureusement pour moi, ça se passe bien. Je dis heureusement pour moi parce que je pense que je me raccroche à ça, en fait. Et je pense que si ça se passait pas bien, si la relation avec elle ne se passait pas bien, je pense que je vivrais encore plus mal la situation.
Joël, juste une question. Cette femme, elle a été cette femme avec qui vous êtes aujourd'hui, avant que vous connaissiez, quand vous êtes rencontrés au travail, c'est elle qui a été plutôt vers vous, c'est elle qui vous a charmé?
Tout à fait.
Ouais.
Oui. Oui. Alors, pour rentrer dans les détails, en fait, elle vivait une période assez difficile parce qu'elle s'est séparée de son amie, avec laquelle elle était avec lui depuis de nombreuses années. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que son amie l'a mise à la porte. Donc elle s'est retrouvée sans domicile. Et donc, à cette époque-là, à l'époque où nous étions simples collègues, j'en ai parlé à ma femme. Et nous l'avions... ma femme a accepté... Enfin, ce qu'on la l'héberge à la maison.
Oui.
Mais à ce moment-là, comme je vous le disais, nous étions simples collègues. Il n'y avait rien du tout. Enfin, il ne se passait rien. Rien de plus que J'ai eu ton collègue et puis voilà, donc nous l'avons hébergé quelques temps. Et puis voilà, puis c'est après cela que les choses se sont...
Mais pour être clair, elle vous a fait du rentre-dedans, cette femme ?
Oui, oui, bah oui, oui, c'est... Oui. Elle m'a fait comprendre à plusieurs reprises que bah, je l'intéressais, entre guillemets. Hein. Mmh. Et puis, bah, j'ai malheureusement succombé. Mmh.
Alors, ce que je vous dis là, c'est au regard de ce que vous me racontez, d'accord ? Donc, je mets des guillemets, des bémols, hein. Puisque là, on est en train de discuter, mais la façon dont vous en parlez, la façon dont vous présentez cette histoire, en tout cas, fait quand même penser au fait que vous auriez été, on va dire, manipulé.
Bah, je ne dirais pas ça, parce que pour qu'une histoire se fasse, il faut être deux.
Ah oui, il faut être deux, mais là, elle vous a carrément forcé la main.
Bah, je ne dirais pas qu'elle m'a forcé la main. Moi, j'ai eu le sentiment, en tout cas... De prendre cette décision. J'ai pris en fait la décision de me mettre avec elle parce qu'elle était fragile, parce qu'elle est fragile psychologiquement, parce que j'ai fait un enfant et que je voulais pas non plus également passer pour celui qui...
Alors, petit quand même bémol à tout ça, c'est que vous avez fait un enfant, vous n'avez pas choisi de faire un enfant. Ça, c'est aussi certains. Important. Alors, l'enfant, aujourd'hui, il est là. En effet, vous avez des devoirs envers lui. Et idéalement, ça serait bien que vos relations avec cet enfant puissent... Enfin, cette relation puisse s'établir. Mais vous n'avez pas de choisi de faire un enfant.
Non. Non, je n'ai pas choisi de faire cet enfant, en tout cas, avec elle. Effectivement, oui. Enfin, lié à ça, je ne voulais pas, en fait, délaisser... délaisser cette femme, délaisser cet enfant, parce qu'aux yeux de tout le monde, je serais passé pour ce que je ne suis pas et je ne voulais pas. Alors, enfin, après c'est un choix parce qu'à côté de ça, je suis passé aussi pour un salaud auprès de ma femme parce que je suis parti avec une autre femme et je suis parti faire avec cette autre femme un autre enfant. Mais je me suis dit, je l'ai dit à ma femme à ce moment-là, enfin, quelques temps plus tard, et je le pense vraiment, je pense que ma femme est plus forte, en fait. Enfin, psychologiquement, en fait, elle a une force de caractère, enfin, voilà, pour accepter de se retrouver, entre guillemets, seul avec un enfant. Et je pense que la femme avec laquelle je suis aujourd'hui ne l'aurait pas supporté. Enfin, en tout cas, elle n'a pas la même force psychologique pour accepter ce genre de choses. Mmh. Et je le pense vraiment quand je dis qu'elle aurait certainement fait une bêtise.
Oui.
Je le pense et aujourd'hui, voilà.
Alors... Je trouve quand même, Joël, que dans tout ça, il y a de la manipulation. Voilà. Parce que la grande scène du 3, devant tout le monde, dans le bureau, et elle va raconter l'histoire à tout le monde, voyez tout ça. Elle vous a quand même pris en otage.
En quelque sorte.
Oui. Alors j'entends bien dans votre voix à vous que... Quelque part, vous êtes laissé faire aussi hein, dans cette situation. Mais vous avez été pris en otage.
En quelque sorte.
Eh oui. Eh oui. Alors la question aujourd'hui, Joël, c'est que qu'est-ce que vous voulez pour votre vie, vous ?
Justement, c'est la raison de... C'est la raison de m'appeler ce soir, c'est que... Que là, comme je vous le disais, ça fait un an que je subis donc ce schéma qui ne me convient pas du tout. schéma qui dans lequel je ne me sens pas bien, donc j'ai voulu essayer en fait. Je me suis dit que bon bah voilà, 3 mois, 4 mois, peut-être que ça ne marche pas, mais je vais essayer encore et je vais essayer encore, et là en fait ça fait, donc ça va faire 1 an bientôt. Et bah, j'y arrive pas en fait. Je ne suis pas heureux en fait.
Maintenant, vous n'êtes pas heureux, ça s'entend à votre voix. Alors écoutez, dans quelques instants, on va avoir le flash info. Je vous propose de rester en ligne avec nous,
d'accord.
Pour qu'on puisse terminer tranquillement cette conversation, que ce ne soit pas dans la précipitation. Vous êtes d'accord ?
Très bien.
Hein ? Parce qu'il me semble que là, vous avez une décision à prendre pour vous, surtout.
Oui.
D'accord ?
Oui, d'accord.
Hein ? Donc restez bien avec nous et puis on en reparle dans quelques petits instants. D'accord.
Merci à vous. Hein.
Elle accompagne vos nuits. La Libre Antenne, Sabrina Philippe sur Europe 1.
Ensemble jusqu'à 1h du matin, nous attendons vos appels au 39-21 et puis bien sûr vos réactions, vos conseils au 7-39-21 en commençant vos messages par le mot nuit. Et il y a justement des SMS qui arrivent pour Joël. Vous êtes toujours avec nous, Joël ? Joël, vous êtes avec nous ?
Oui.
Vous nous expliquiez juste avant ce flash info la situation dans laquelle vous êtes actuellement. C'est-à-dire que vous étiez marié, enfin pas marié, mais vous viviez en tout cas en concubinage avec une femme. Depuis 7 ans, vous aviez une petite fille de 6 ans. Et puis, vous avez une relation adultère avec une autre femme qui est tombée enceinte et avec laquelle vous vivez actuellement. Et ce que vous expliquiez, c'était que vous étiez malheureux finalement dans cette relation.
Oui.
Là, finalement, Joël, c'est que à force de ne pas prendre des décisions, parce que vous êtes un peu laissé faire dans tout ça, quand même.
Oui, en quelque sorte, oui.
Bah oui.
Enfin, je me suis laissé faire, oui et non, parce que il y a un moment donné où il a fallu que je fasse un choix, et ce choix, je l'ai fait. Enfin, j'ai fait le choix de quitter ma femme, donc pour me mettre avec...
Mais on a l'impression que ce choix, vous l'avez fait à contre-cœur.
Oui, tout à fait, c'est certain. Que j'ai pas fait le choix parce que je le voulais, je l'ai fait parce que je pensais à ce moment-là ne pas avoir d'autres choix que de faire ce choix-là.
Ben, on a toujours le choix en fait.
Oui, mais ça, aujourd'hui, maintenant que je l'ai fait, je le regrette et je me dis que si pouvez revenir en arrière.
Alors, vous ne pouvez pas revenir en arrière, mais vous pouvez faire au moins un choix qui vous corresponde. Parce que là, vous allez rendre tout le monde malheureux. Déjà, vous en premier. Donc, si vous n'allez pas bien, vos enfants n'iront pas bien.
Oui, c'est sûr.
Forcément. Vous vous sentez contraint dans cette relation, donc vous n'arrivez pas à établir de relation, justement, avec cet enfant, avec ce bébé.
Oui.
Et ça, c'est grave. Pour cet enfant. Donc là, en fait, le fait de vous forcer fait du mal.
Bah, comme je vous le disais tout à l'heure, j'espérais à un moment donné, parce que je me disais que c'était le début et qu'il fallait laisser le temps faire les choses, et peut-être qu'avec le temps les choses allaient se faire. Et je me dis qu'au bout de au bout d'un an, les choses ne sont pas faites en fait, et je n'y arrive pas, et en plus de ne pas y arriver, je ne le veux pas en fait.
Mais si vous ne le voulez pas, il faut organiser votre vie pour vivre ce que vous voulez.
Ce que j'aurais voulu, c'est de ne pas avoir fait ce choix-là, en fait.
Mais ça, c'est pas possible, Joël. On peut pas revenir dans la vie. On peut pas appuyer sur une touche. Une touche marche arrière.
Oui, c'est sûr.
Donc, c'est vers l'avenir qu'il faut regarder.
Et l'avenir, je le vois pas, en fait. Enfin, quand je regarde. Quand je regarde ce qui peut se passer, je vois pas d'avenir heureux, parce que de toute façon, quoi qu'il en soit et quoi qu'il se passe, je serai forcément pas heureux, parce que mon bonheur, je lui ai tourné le dos. Enfin,
vous savez, la vie est longue, Joël. Hein, on ne sait pas de quoi elle est faite le lendemain, ni le surlendemain. Donc là, d'ailleurs, il y a un SMS qui vient d'arriver pour vous et qui dit « Prenez un appartement seul pour quitter cette femme en douceur et par la suite choisir. »
J'ai pas la possibilité de faire ça.
Et pourquoi ?
Je veux dire, financièrement parlant, j'ai pas la possibilité de partir et de quitter l'appartement dans lequel je suis actuellement.
Et vous n'avez pas quelqu'un qui peut vous héberger ? Avec qui vous pourriez temporairement faire une petite colocation ?
J'aurais la possibilité d'être hébergé, mais le problème après c'est ma fille et le fait qu'un week-end sur deux je l'accueille chez moi. Je pourrais plus l'accueillir si.
Vous pourrez plus l'accueillir, mais peut-être que vous l'accueillerez avec le sourire, pour commencer. Parce que dans quel contexte vous l'accueillez ?
C'est sûr que je l'accueille dans un contexte un peu. Enfin, après, comme je vous le disais tout à l'heure, je fais semblant. Après, vous me direz, elle n'est pas dupe, elle doit le sentir quand même.
Bien sûr. C'est pour ça, Joël, en fait, vous... Quand on ne s'écoute pas, quand on fait le contraire de ce que le cœur dit, ça crée des dommages collatéraux. Et là, vous allez créer des dommages un peu partout.
J'en ai déjà créé.
Vous allez continuer. Voilà. On ne peut pas rester avec quelqu'un parce qu'on y a été contraint, parce qu'il y a un enfant, ça ne suffit pas.
Oui, c'est certain.
Vous voyez ?
Et oui, c'est certain. Après, à côté de ça, cette femme avec laquelle je vis actuellement est amoureuse. Ça risque d'être un déchirement pour elle.
Oui, mais là, ce que j'entends beaucoup, Joël, c'est je me suis mis avec elle au regard des autres, pour ne pas passer pour un salaud, je reste avec elle parce qu'elle m'aime. Enfin, ça n'a pas de sens, tout ça.
Alors, c'est sûr que. Que je me suis dit à ce moment-là, mais en contrepartie, je suis auprès d'autres personnes et auprès des amis, des amis de ma femme en tout cas. Enfin, je suis évidemment passé pour un salaud. À ce moment-là, je me disais que le fait de passer pour un salaud au travail, enfin au sein de mon travail. Tenez que j'y allais tous les jours et que je voyais mes collègues.
N'avez pas la possibilité de changer de travail ?
J'ai déjà changé de travail.
D'accord. Donc là, vous ne travaillez plus avec elle ?
Si, je travaille encore avec elle.
Mais pourquoi ?
Parce que. Je ne vais pas vous expliquer en détail, mais voilà, nous faisons le même travail. Et nous travaillons encore ensemble.
D'accord.
Après, ce qui est différent aujourd'hui, c'est que l'histoire, les collègues que j'ai aujourd'hui ne connaissent pas toute l'histoire. La plupart que des collègues que j'ai aujourd'hui ne savent même pas que nous sommes ensemble.
En tout cas, je peux vous dire, Joël, que tous les SMS qui arrivent là vont dans le même sens. Patrick dit « Rester avec quelqu'un par contrainte, c'est repousser l'échéance. » Le SMS suivant dit « Choisir, c'est renoncer. Combien de temps encore va-t-il supporter cette triste vie ?» Le troisième dit « Changer de travail et retourner chez votre femme. »
J'aimerais bien.
C'est à vous de prendre des décisions pour votre vie, Joël. Vous ne pouvez pas laisser les autres les prendre. D'autant qu'il y a deux enfants dans cette histoire.
Oui, c'est à moi de prendre la décision, mais moi, si je prends la décision, la décision que je souhaite prendre, c'est pas la décision que ma femme voudrait. Donc, je ne peux pas prendre cette décision tout seul. Enfin, en tout cas, quoi qu'il en soit, je suis contraint de me fier au désir de l'autre, parce que...
Non, on n'est jamais contraint de se fier au désir de l'autre, non.
Bah, ce que je veux dire, c'est que cette décision, si jamais... Enfin, ma décision à moi, c'est celle de retourner avec ma femme, mais je ne peux pas prendre cette décision tout seul. Il faudra que ma femme en ait envie, elle aussi.
Et bah, devant poser-lui la question, dans ce cas.
Mais ça a déjà été fait.
Et qu'est-ce qu'elle vous a répondu?
Mais elle ne le souhaite pas, elle... Enfin, ça peut s'entendre, hein. Je lui ai fait beaucoup trop de mal pour que...
Mais dans ce cas-là, encore une fois, trouver une solution pour vivre seul, Joël. Voilà. Et puis peut-être qu'un jour, vous pourrez vous remettre avec votre femme, peut-être. Mais en tout cas, c'est sûr que passer de l'une à l'autre, ça me semble compliqué, oui. Maintenant, quand on veut, on trouve toujours des solutions. Oui, je vous le confirme. Il y a toujours des solutions, quand on le veut vraiment. Mais en tout cas, restez dans la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Encore une fois, fait du mal à votre fille, certainement. Fait du mal à ce bébé qui est né, avec qui vous n'avez pas de relation vraiment paternelle, parce que vous êtes malheureux. Et vous fait du mal à vous. Donc, c'est pas une solution. Voilà, Joël. J'espère que vous allez pouvoir vous recentrer sur vous.
Ça risque d'être... Mais après, enfin... Parce que la solution que vous... La solution dont vous me faites part, c'est celle de partir et de prendre un appartement. Enfin, mon appartement à moi seul, mais... C'est une solution de solitude, en fait.
C'est d'être honnête envers soi et donc envers les autres. Et à partir du moment où on est dans une justesse, la vie devient plus juste aussi autour.
Mais est-ce que la solitude m'apportera de l'épanouissement? Je ne suis pas convaincu.
C'est pas la solitude, c'est d'être juste avec vous-même et puis vous verrez bien ce qui se passe. Mais là, vous êtes quand même avec une femme avec laquelle vous n'avez pas envie d'être. Vous êtes avec un enfant où vous avez dit que vous n'arriverez pas à avoir de relation. Tout simplement.
Oui. Oui, c'est sûr.
Vous voyez ? Donc c'est pas d'être en effet tout de suite retourné chez votre femme en faisant comme si rien ne s'était passé, c'est impossible. Ce n'est pas de rester avec cette femme-là parce que finalement vous n'avez pas vraiment de sentiments pour elle. Mais la troisième voie, il me semble la voie de la justesse. C'est-à-dire vous retrouvez-vous déjà. Et vous pourrez voir plus clair. Et cesser de mentir. Voilà, Joël. Ça me semble, en tout cas, ce qu'il faudrait que vous puissiez faire.
Très bien. Bon. Je vous remercie pour ces conseils que je vais... Je vais réfléchir à cela.
Oui. Oui. Mais essayez de prendre la bonne décision, en tout cas, parce que... Voilà, comme le dit Patrick encore dans un SMS, prenez une décision, sinon vous allez détruire autour de vous, en fait, de plus en plus. D'accord ?
Oui.
Je vous souhaite bon courage.
Merci beaucoup.
Et de belles fêtes, néanmoins.
Merci à vous.
Au revoir, Joël.
Au revoir.
Vous êtes sur la libre antenne, nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin et nous attendons vos appels au 39-21. C'est Marie-Christine qui nous rejoint maintenant. Bonsoir Marie-Christine.
Bonsoir.
Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir.
Oui.
Alors, qu'est-ce qui vous amène à nous appeler ?
Je vous avais déjà appelé il y a quelques mois, déjà pour vous raconter mon histoire.
Oui.
Et mon ex-mari est tout d'un coup revenu me voir il y a à peu près 10 ans. Mmh. Et je me suis aperçue très vite qu'il y avait un souci parce que il me posait des questions, je lui répondais et puis 2 minutes après, il me reposait les mêmes questions. Donc... Je l'ai emmené voir son médecin et puis dans un hôpital à Nantes, on lui a fait des examens et puis il a été décrété Alzheimer.
D'accord. Parlez un tout petit peu plus fort si c'est possible pour vous, Marie-Christine. Voilà, bien dans le combiné pour qu'on puisse bien vous entendre. Merci beaucoup.
Donc il a été diagnostiqué Alzheimer. Et ça fait plus de 10 ans que je m'occupais de lui.
Il était revenu chez vous, c'est ça ?
Comment ?
Il était revenu chez vous.
Il est revenu me voir de son plein gré. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait un souci. Et donc diagnostiqué Alzheimer. Et là, j'ai pris la... je me suis occupée de lui pendant 10 ans et puis il est mort le mois dernier. Donc là, maintenant, c'est le vide total.
Oui.
Pour moi, c'est le vide. Parce que il m'a reconnue jusqu'au dernier moment. Et je peux vous dire que quand il est décédé, j'étais près de lui et il respirait d'une manière très, très forte. Et puis je lui ai fait des petites caresses sur le front, les mains, je lui ai dit que j'étais là. Et puis au bout d'un quart d'heure, il a arrêté de respirer. J'ai appelé l'infirmière puisqu'il était dans une maison de retraite et il était mort, mais il est mort dans mes bras. C'est la
vous l'avez
petite
accompagné
consolation.
Jusqu'au bout. Oui, vous l'avez accompagné. Comment? Jusqu'au bout.
Jusqu'au bout.
D'accord. Et c'est difficile pour vous aujourd'hui, Marie-Christine.
Alors moi, maintenant, en ce moment, c'est le vide complet.
Vous avez quel âge ?
J'ai 72 ans.
Il va falloir réorganiser votre vie, en fait.
Oui, mais pour l'instant, c'est impossible d'envisager pour l'instant. Il faut du temps.
Il faut un peu de temps.
Il faut du temps parce que là, c'est tellement récent que j'arrive pas. Quand je dors très peu, et puis quand je me réveille la nuit. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est Bernard est mort. Bernard, c'était son prénom. Bernard est mort.
Mais c'est normal que vous soyez sous le choc de ce décès, surtout que vous êtes occupée de lui pendant 10 ans, Marie-Christine. Donc il va falloir un petit peu de temps.
Oui.
Vous avez pensé à aller consulter quelqu'un ?
J'ai un psychiatre que je vois régulièrement.
D'accord. Donc il va vous aider aussi.
Oui, là, je vais le voir la semaine prochaine.
D'accord, à faire votre deuil.
Mais c'est, bien que c'était prévisible, parce qu'il avait fait ce qu'on appelle une fausse route. Ça veut dire que il ne pouvait plus rien avaler. Comme il avait 93 ans, on ne pouvait pas lui mettre une sonde gastrique, parce qu'à son âge, ce serait considéré comme un acharnement thérapeutique. Donc il est resté une semaine sans rien manger, puisqu'il ne pouvait plus rien avaler. Donc c'était prévisible, mais les choses qui sont prévisibles et qui arrivent, c'est deux choses différentes.
Bien entendu. Bien entendu, Marie-Christine.
Et donc, même si on s'attend à cette réalité-là, quand ça arrive, on est complètement dévasté.
Il va vous falloir du temps.
Oui.
Il va vous falloir du temps, mais aussi de pouvoir vous projeter un peu dans une autre vie qui sera plus celle d'un aidant.
Oui, peut-être.
Donc, c'est normal que ça fasse un vide pour le moment.
Oui, c'est du grand vide, du stress, beaucoup de stress, parce que, franchement, je tremble. Et je tremble, les mains, les jambes, et je ne peux même pas prendre la voiture parce que je tremble trop et j'ai peur d'avoir un accident. Donc, je reste... J'attends que ça se passe.
Bon. Marie-Christine, je pense que votre psychiatre va vous aider à passer ce cap.
Oui.
Et puis le temps va faire son œuvre aussi, comme toujours. Il faut du temps.
Je pense que oui, il faut
du temps. Là, c'est encore très récent, donc il va falloir du temps, tout simplement.
Oui, voilà. Mais voilà.
Comme je le dis souvent, il faut du temps pour les larmes. Il faut du temps pour le deuil.
Ça a été très, très difficile. La crémation, c'était horrible.
Oui, j'entends bien. Alors, vous avez appelé déjà la libre antenne, c'est ça, plusieurs fois?
Oui.
Oui. Vous le voyez à quelle fréquence, votre psychiatre?
Une fois par mois.
C'est peut-être pas assez?
Je sais pas.
Oui, je pense que c'est pas assez. Dans une situation comme celle-là, dans une situation de deuil, il faudrait le voir plus souvent.
Oui. Là, je le vois le 3 janvier.
Oui, il faudrait lui demander au moins un rendez-vous tous les 15 jours.
Oui, peut-être, oui.
Voire toutes les semaines. Dans un moment difficile comme celui-là, un accompagnement hebdomadaire, c'est le mieux. C'est ça qu'il faudrait faire. Mais oui. Mais oui. Parce qu'une fois par mois, c'est pas assez.
Jusqu'à présent, c'était comme ça parce que.
Oui, jusqu'à présent. Mais là, avec le deuil que vous venez de vivre, demandez-lui s'il peut vous recevoir plus fréquemment.
D'accord.
D'accord, Marie-Christine?
D'accord.
Je vous souhaite beaucoup, beaucoup de courage pour cette période difficile.
Oui, c'est surtout en cette fin d'année.
Toujours, bien sûr.
C'est pas formidable, quoi.
Bien sûr.
Oui.
Bon. Je vous souhaite beaucoup de courage. Merci pour votre appel, Marie-Christine.
Merci beaucoup. Oui.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
La Libre Antenne sur Europe 1, Sabrina Philippe.
C'est Léna qui nous rejoint maintenant. Bonsoir, Léna.
Bonsoir, Sabrina.
Bonsoir.
Alors, moi, je vous appelle pour un problème qui est bien particulier parce que je n'ai pas connaissance du même problème chez d'autres personnes, en sachant que je n'en parle pas vraiment non plus autour de moi. C'est un problème familial. Hein. J'ai un demi-frère qui est très violent. Moi, j'ai 57 ans, donc ça fait 30 ans qu'il est très violent. Enfin, plus de 30 ans même, mais il est... En fait, ça a été l'enfant roi. Alors, pour placer un peu l'histoire familiale...
Ouais.
Mon père a connu... une femme, quand j'avais 2 ans, il était marié avec maman. Maman était enceinte de mon petit frère. Et puis, bah, il est resté avec les deux femmes pendant 14 ans.
D'accord, une double vie. Double
une double vie. Ouais. Voilà. Maman était au courant. Elle l'a accepté, je ne sais pas pourquoi, par amour, je sais pas pourquoi, mais enfin, j'ai jamais compris. Et pendant 12 ans. Et quand j'avais 14 ans, mes parents ont divorcé. Et je suis allée vivre chez mon père, parce que mon père l'avait décidé que maman n'était pas suffisamment forte pour lutter contre lui. Enfin, il voulait avoir notre garde. Donc, il a eu notre garde. Nous sommes allés vivre chez lui et sa maîtresse, donc. Oui. Et j'ai fait la connaissance de mon petit frère, enfin de mon demi-frère. J'avais 14 ans, lui avait 4 ans. Mmh. En sachant que je le connaissais déjà, mais sans savoir que c'était mon frère.
D'accord.
Voilà. Parce que maman le gardait de temps en temps pendant que papa sortait avec sa maîtresse.
Ah, donc c'est particulier, en effet.
Oui, c'est assez particulier. Mmh. Cette femme est ma marraine.
D'accord.
Voilà. Et cet enfant, enfin l'enfant qu'ils ont eu ensemble, mon demi-frère, a toujours été l'enfant roi. Par contre, nous avons été élevés de façon très très stricte par mon père et donc par ma marraine. Enfin, quand je dis nous, mon frère et moi, et puis mon demi-frère avait tous les droits. Il a toujours tous les droits. Il a 47 ans aujourd'hui. Il vit chez mon père et ma marraine, toujours. Il n'a jamais travaillé. Et à chaque fois, enfin moi j'habite loin de chez eux, mais à chaque fois que je retourne chez eux, eh ben, mon frère me tape, m'insulte. Et il insultait mes enfants aussi quand j'y allais avec mes enfants. Aujourd'hui, mes enfants sont grands, donc ils ne veulent plus y aller. J'ai 3 enfants qui ne veulent plus y aller et qui protègent aussi, qui ont eux-mêmes des enfants. Et qui les protège. Donc, et moi, je ne sais plus quoi faire parce que quand je veux en parler avec mon père, et ben, à chaque fois, c'est non, ils ne veulent pas en parler. Ils ne veulent pas en discuter. Et c'est toujours mon demi-frère qui a raison. C'est-à-dire que la dernière fois que j'y suis allée, c'était cet été. Moi, je venais de me faire quitter par mon compagnon, donc très bien. C'était 2 jours après m'être fait quitter par mon compagnon, donc j'étais encore assez fragile. Et mon frère a commencé à me dire des choses insupportables à propos de moi et de mon compagnon, c'est-à-dire oui, tu rêves de lui la nuit, enfin des trucs complètement idiots. Et je me suis fâchée, je lui ai dit je pourrais avoir un peu de respect, s'il te plaît. Et là, il m'a tapé. Mais mon père et ma marraine font comme s'ils ne voyaient rien.
Mais ils ont toujours fait de toute façon.
Ils ont toujours fait ça. Mais là, je me dis, à 57 ans, je me rends compte que j'ai eu des relations un peu toxiques.
C'est le moins qu'on puisse dire, je crois.
Oui.
Entre une maîtresse, la maîtresse de votre père qui était en même temps votre marraine, sans que vous, un demi-frère qui était là, mais que vous connaissiez sans savoir que c'était votre demi-frère. Je pense que là, on est dans un niveau de toxicité et de secret familial qui est pas mal.
Oui.
Ça se passe là déjà.
Oui, ça se passe là déjà. Et puis, je me rends compte que moi, dans mes relations d'adulte, avec les hommes en particulier, j'ai des relations toxiques. C'est-à-dire que je fais tout pour être aimée. Je me plie en 4 et puis je me rends compte que je me fais quitter parce que on m'aime pas vraiment, quoi. Enfin. Et là, cette année, comme on arrive en fin d'année et que je me dis une nouvelle année débute. Je me suis rendu compte en réfléchissant, parce que je suis seule depuis plusieurs mois et que je réfléchis beaucoup, et je me dis, mais en fait, on ne m'a jamais respectée. Mais depuis que je suis petite. Et je me dis, en 2019, maintenant, je vais me faire respecter. C'est-à-dire que je n'accepte plus enfin, je l'acceptais pas, mais en même temps, je ne disais rien pour pas contrarier mon père ou ma marraine. Et aujourd'hui, je n'ai plus envie d'accepter du tout la violence de mon frère.
Mais vous n'avez pas à l'accepter, d'ailleurs. Feuille d'érable écrit là, un SMS pour vous. Pourquoi continuez-vous à garder le contact? Faites comme vos enfants, n'allez plus les voir, vous ne vous en porterez que mieux.
Bah, ça me fait un peu mal au cœur vis-à-vis de mon père. Ça me fait assez mal au cœur. Allô?
Oui, mais en même temps, je suis là. C'était le mal au cœur qui m'a saisi. Parce que, mal au cœur, mais en fait, lui, ça ne le dérange pas que votre frère vous tape?
Bah ça ne me dérange pas. Après, moi, que je n'y aille plus, parce qu'une fois, je me suis fâchée, c'est au mariage de ma fille, où il a insulté tout le monde, et où j'ai même failli me battre avec lui en lui demandant d'arrêter et d'aller se coucher, on en avait assez, quoi. Il y a plusieurs personnes qui ont failli se battre avec lui. Et là, j'ai dit, c'est le mariage de ma fille. Et mon père est venu me voir en me disant, mais tais-toi, parce que si je dis quelque chose, ben, bien sûr, mon demi-frère renchérit tout de suite et est de plus en plus violent à chaque fois que je dis quelque chose. Et on m'a encore demandé de me taire ce jour-là. Et ce jour-là, j'ai dit, papa, c'est le mariage de ma fille, donc je ne le laisserai pas faire. Mmh. Et puis le lendemain, je leur ai dit, bon, bah, comme ils faisaient la tête tous les deux, c'est à moi qu'on fait la tête dans ces cas-là, hein, c'est pas à mon frère.
C'est pour ça, quand vous disiez ça, ça me fait mal au cœur.
Ça me fait mal au cœur parce que j'aime mon père quand même et que il est âgé maintenant et que si je coupe les ponts, ça va être difficile, quoi.
Oui. Mais en même temps, votre père ne vous a jamais donné vraiment votre place?
Ben moi, j'ai l'impression de ne pas avoir ma place dans ce monde, déjà. J'ai l'impression de ne pas avoir ma place. Et j'ai beaucoup de mal. J'ai l'impression de vivre dans un monde que je suis particulièrement bienveillante en général. Enfin, je suis bienveillante. Je suis dans la bienveillance tout le temps. Et là, je me dis, je ne peux plus continuer à être dans la bienveillance. Je n'y arrive plus.
Oui, mais là, c'est pas seulement de la bienveillance, en fait. C'est quelque part de la soumission.
C'est ça.
Vous voyez, il faut faire la distinction entre la bienveillance et la soumission. En fait, vous avez grandi comme ça. Vous n'avez pas eu le choix.
J'ai grandi comme ça. J'ai pas eu le choix, non.
Votre père a décidé de tout, y compris de la garde. Vous êtes partie vivre chez lui parce qu'il l'a décidé. Il a mené sa double vie parce qu'il l'a décidé. Il a installé votre demi-frère comme un enfant roi parce qu'il l'a décidé. Et jusqu'à maintenant,
c'est plus ma marraine qui l'a décidé et lui qui n'a jamais.
Oui, enfin tous les deux.
Qui ne s'est jamais positionné.
Oui. Oui. Tous les deux.
Tous les deux.
Et vous êtes toujours restée depuis petite finalement soumise à ses décisions.
Oui.
Ça n'a rien à voir avec de la bienveillance.
Ben moi, j'essaie d'être bienveillante comment dire, quand je dis que je suis bienveillante, c'est-à-dire que je ne vais pas exploser ou avoir des paroles de chacal comme mon frère les a. Et voilà, j'essaie de à chaque fois de dire je vais pardonner.
Mais personne n'a le droit de vous insulter, personne n'a le droit de vous frapper, même si c'est votre demi-frère. Personne n'a le droit de faire ça. Vous comprenez, Léna?
Ben c'est ce que je commence à comprendre. Enfin, c'est assez compliqué. Parce que je me rends compte que j'ai repoussé les limites. Tout le monde me dit, même mes enfants me disent, mais maman, tu as tellement repoussé les limites que tu ne te rends même pas compte que c'est pas normal ce que tu vis, quoi. Mais maintenant, je m'en rends compte. Enfin, là, je m'en rends compte depuis quelques semaines.
Ça n'a jamais été normal, en fait.
Ça n'a jamais été normal, non.
C'est surtout ça. Et comme vous n'avez pas connu autre chose, pour vous, c'était normal.
Oui. Le problème, c'est que je me sens redevable envers mon père.
Pourquoi?
Parce que je suis née... Je suis née bien avant terme. Je suis née à 5 mois et demi de grossesse, il y a 57 ans. J'ai survécu à ça et c'est mon père qui faisait. Maman était trop mal. Elle a été hospitalisée à Sainte-Anne. Et c'est papa qui a fait les allers-retours à Necker tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et on n'était pas sur Paris à l'époque. Hein. Mmh. Et papa faisait tout le temps les allers-retours. Et j'ai eu des problèmes de santé jusqu'à l'âge de 7 ans à peu près. Et c'est toujours papa qui était là, quoi.
Mais on n'est pas redevable envers un parent qui s'occupe de son enfant.
Ben moi, je me sens redevable. Et il m'a dit qu'il avait abandonné sa carrière pour moi, que voilà. Mmh. Et du coup, je me sens...
Oui. Il a abandonné sa carrière pour vous. Mmh. Oui. C'est peut-être sa version de l'histoire, ça, non?
Je ne sais pas. Mmh.
Parce que vous auriez eu un enfant qui avait des problèmes de santé, vous ne l'auriez pas fait, ça? Vous n'auriez pas fait les allers-retours à l'hôpital?
Oh, si.
Mais quel parent le ferait pas?
Ça, oui, c'est vrai que des fois, je me dis, mais c'était normal ce qu'il
a
fait.
Oui, c'est normal. Surtout que votre mère n'était pas en capacité de s'occuper de vous, c'est ça?
Oui, maman n'était pas en capacité, mais physique, quoi, et psychologique aussi. Oui. Ça a été très difficile pour elle. Moi, je suis restée 3 mois en couveuse, mais sans avoir... À l'époque, les parents n'avaient pas de contact avec les enfants, pas comme maintenant. Donc, elle me disait, quand je pouvais aller te voir, c'était derrière une vitre et il n'y avait pas de contact du tout. Mmh. Moi, je pense que j'ai beaucoup souffert de ça aussi.
Vous avez beaucoup souffert de tout un contexte.
De tout un contexte, oui.
Et votre frère, Nathalie demande, votre frère, donc pas votre demi-frère, mais votre frère.
Oui.
Lui, comment va-t-il, lui, aujourd'hui?
Lui, il y va le moins possible. Il habite près de chez eux, il y va le moins possible. Ils ne connaissent pas son ami, enfin sa compagne, parce que mon frère ne veut pas que... Enfin bon, il trouve que c'est assez toxique comme ça, donc voilà, lui il a les mêmes sentiments que moi. Seulement lui est en capacité de ne rien dire, c'est-à-dire qu'il y va encore de temps en temps, hein. Il y va tous les 15 jours à peu près. Passer le dimanche, mais il ne dit rien, il ne répond pas. Quand mon frère l'attaque, enfin quand mon demi-frère l'attaque, il est en capacité de ne pas répondre, de faire comme s'il n'existait pas. Mais comme je lui ai dit cet été, parce que mon frère me dit, bah écoute, tu fais comme s'il n'existait pas, et puis voilà, enfin tu réponds pas. Et je dis oui, mais quand il me touche et qu'il me fait mal. Il me dit, bah, tu fais comme si ça n'existait pas, et puis voilà, mais moi, j'y arrive pas.
Non, mais c'est
et
pas...
moi, quand je vais chez eux, je dors chez eux, en plus, donc j'ai pas de moment de repos, puisque quand je vais me coucher, bah, il y a mon demi-frère qui arrive, qui vient me parler, qui vient me dire des choses désagréables, et...
Mais votre demi-frère, là, donc il ne travaille pas, c'est ça?
Non, non, il n'a jamais travaillé.
Il n'a jamais travaillé. Et vous pensez qu'il a toute sa raison?
Moi, non. Je pense qu'il a un problème psychologique.
Parce qu'a priori, dans ce que vous racontez, là, ça ressemble quand même à quelqu'un qui aurait en tout cas une pathologie psychiatrique.
Bah, il est alcoolique.
Ah.
Il est alcoolique et il se droguait. Alors apparemment, il ne se drogue plus. Enfin, il se droguait. Il fumait de... Je ne sais plus comment ça s'appelle.
Du cannabis, shit. Oui.
Du cannabis. Enfin, je ne sais pas exactement... je sais que pendant un moment, c'est vrai qu'il dépensait beaucoup d'argent pour ça, et puis c'est l'alcool, hein, l'alcool. Et mon père est alcoolique aussi.
D'accord. Bon, c'est très toxique, tout ça.
C'est assez toxique, oui.
Mais vous, Léna, vous vivez loin d'eux?
Je vis loin, mais en même temps, j'y vais 2 fois par an. Alors là, j'ai décidé de pas y aller pour les fêtes parce que ça se passe toujours très très mal là-bas. C'est limite insupportable, quoi. Et j'ai décidé de pas y aller. Alors j'ai invoqué des raisons. J'ai un peu menti. J'ai pas dit pourquoi je n'y allais pas. J'ai dit que j'avais d'autres choses à faire et que les enfants. Je passais Noël avec mes enfants et bon, ils l'ont assez mal pris, mais bon, voilà. Mais bon, sinon, j'y vais l'été aussi, tous les étés, toutes mes vacances, je les passe là-bas.
Toutes vos vacances, vous les passez là-bas? Mais pourquoi?
Oui. Bah, parce que ça a toujours été comme ça.
Et ça peut pas changer.
Ça peut changer.
Mais il faudrait que ça change. Vous faites du mal, là ?
Oui.
Vous faites du mal, Léna ? Votre famille est toxique. Bon, votre famille est toxique, elle a toujours été, elle ne changera pas.
Mm-hmm.
Votre père, il a été ce qu'il est, ce qu'il est. Ce qu'il a fait pour vous, le fait de venir vous voir à l'hôpital ou de s'occuper de vous, c'est le devoir d'un parent, hein. Ni plus ni moins.
Mm-hmm.
Ni plus ni moins. Sinon, c'est de l'abandon.
Oui.
Donc vous, maintenant, il va falloir vous occuper de vous. Vous avez déjà consulté un psychologue?
Oui, j'ai vu une psychologue pendant des années.
Et ça
mais
vous a
pour
aidé?
Autre chose.
Oui.
Bah, c'était pour autre chose. C'est parce que je vivais une relation toxique avec mon mari et qu'il fallait que je le quitte et que j'y arrivais pas.
Comme avec votre père.
Comme avec mon père, oui. Mmh. Oui, je n'arrive pas à quitter, même si c'est pas forcément bon pour moi, et que je le sais, je m'en rends compte. Je n'arrive pas à quitter les personnes qui sont toxiques pour moi.
Parce que vous avez été habituée comme ça. Mais ça veut pas dire que
ma fille me dit, oui.
Ça veut pas dire que ça peut pas changer.
Ben justement, j'ai l'intention que ça change en 2019, mais comment expliquer à mon père qu'ils sont toxiques parce qu'eux ne veulent pas l'entendre ni... J'ai déjà essayé de leur expliquer.
Non, mais je ne crois pas que ça soit utile de leur expliquer. Vous voyez ? Parce qu'eux ne changeront pas.
Mmh.
Les explications, c'est bien. Mais quand les autres peuvent l'entendre, cette explication, et là, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas du tout. En plus, il y a des problèmes d'alcool.
Oui.
Donc, tout ce que vous allez dire ne servira à rien. Vous allez perdre votre énergie.
Ben, je perds mon énergie à y penser tout le temps.
Le mieux, c'est de vous éloigner le plus possible, d'aller passer vos vacances ailleurs, parce que les vacances, c'est fait justement pour passer du bon temps, pour se reposer, et non pas pour se retrouver dans une situation comme celle-là.
Ben, c'est ça. L'été dernier, j'ai vécu une situation terrible. Moi, je venais de me faire quitter par mon compagnon et j'étais très malheureuse. Et j'ai été malmenée, en fait. Hein. Mais j'en suis toujours malheureuse. Et mon frère qui s'est acharné sur moi en me disant des choses abominables, en insultant mes enfants.
Mais vous n'êtes pas obligée de vous infliger tout ça ? Mais non.
Oui, mais en même temps, s'il arrivait quelque chose à mon père, je m'en voudrais. Voilà, c'est pour ça que je le fais pas.
Mais vous en vouloir de quoi ?
Ben, je m'en voudrais qu'il parte sans l'avoir revu ou...
Non, mais vous pouvez aller le voir une journée et repartir. Hein ? Vous n'êtes pas obligé de passer toutes vos vacances là-bas.
Mmh.
Vous voyez ? Vous n'êtes pas obligé de subir tout ça. C'est ça dont il faudrait que vous preniez conscience, en fait. Tout ce que vous avez vécu était anormal. Vous n'aviez pas à le vivre.
Oui, je sais que c'était pas normal. Je sais que c'est pas normal, parce que sinon j'en parlerai autour de moi, mais je peux pas en parler, parce que je me dis, c'est tellement... Enfin, ça paraît surréaliste. Enfin, je me dis, mais... Les gens vont croire que j'exagère, que...
Écoutez...
Il y a eu des choses abominables, hein, quand même. Hein. Il y a eu des choses vraiment abominables.
D'autres choses abominables ?
Oh bah, il y a une fois où mon frère a sorti ses armes, voilà, pour me mettre un revolver sous la nuque. Enfin, des choses comme ça, quoi. J'ai dit à mon père que je voulais plus voir d'armes là-bas. Et puis, je me suis rendu compte cet été, il s'est amusé à sortir les armes pour me faire peur, parce que je déteste ça et parce que ça me fait trop peur. Alors, c'est pas forcément... je sais pas comment vous dire. Je sais pas, je n'y connais absolument rien.
Léna, je pense vraiment là qu'il va falloir arrêter. de vous mettre en danger comme ça.
Mmh.
Vous voyez ? Il faut arrêter.
Oui, moi je le pense aussi.
Ah oui. Et ça serait bien que vous alliez reconsulter quelqu'un pour cette histoire familiale et de parler de ça aussi.
Ouais. Alors j'ai déménagé depuis, je suis plus en contact avec la psychologue que j'avais. Parce que j'avais une psychologue qui était très bien, hein. Je suis restée plusieurs années avec elle, à raison de 3 séances par semaine, hein, pour pouvoir faire face à d'autres choses, mais je pense qu'ils sont en relation avec tout ce que j'ai vécu, de toute façon.
Mais ils en sont à l'origine.
Bah, je pense que oui, oui.
Bah, évidemment. Vous êtes construite, encore une fois, dans des relations extrêmement toxiques. Du secret familial, des relations toxiques. Voilà. Donc c'est devenu une normalité pour vous. C'est pour ça que vous l'avez reproduit dans vos relations amoureuses.
Oui.
Parce que vous n'avez connu que ce lien. Donc vous l'avez reproduit.
Oui, je me suis rendu compte que j'ai reproduit des relations amoureuses qui étaient toxiques.
Mais vous pouvez changer tout ça.
Je peux le changer,
mais oui.
Vous pouvez changer tout ça. Oui, c'est ce que je me dis aujourd'hui, je peux le changer.
Oui, mais pour le changer, il faut changer vos habitudes, changer votre comportement. Alors un psychologue va vous y aider progressivement, bien sûr.
Mm-hmm.
Mais il y a aussi des décisions qui vous appartiennent. Et une des premières décisions, et je crois que vous l'avez dit à un moment au tout début de notre conversation, c'est qu'on vous respecte.
C'est ça. C'est
vous avez le droit au respect.
Voilà, c'est ce que je me suis rendu compte depuis quelques semaines. Là, je me dis, mais en fait, on ne m'a jamais respectée. Mon père ne m'a pas respectée, mon frère ne me respecte pas, enfin, mon demi-frère ne me respecte pas, ma marraine ne me respecte pas. Et j'ai construit des relations où je n'étais pas respectée.
Mais c'est bien d'en avoir pris conscience.
J'en ai pris conscience.
Mais maintenant, il va falloir enlever cette culpabilité qui n'a pas lieu d'être.
Oui.
C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne vous respecte pas, il faut répondre par de l'indifférence. Je ne dis pas qu'il faut manquer de respect à l'autre. L'idée, c'est pas ça.
Mm-hmm.
Mais rester dans l'indifférence, au moins. Vous n'avez pas à être dans la pseudo-bienveillance ou la soumission vis-à-vis de personnes qui ne vous respectent pas. Mm-hmm. Combien de temps ça va durer, ça ?
Je me disais que ça allait durer jusqu'à la fin de ma vie, mais là, aujourd'hui, je me dis, mais il faut que ça s'arrête, quoi. Il faut que ça s'arrête parce que mes enfants sont inquiets à chaque fois que j'y vais. Et parce que j'ai envie d'être respectée, tout simplement, d'être aimée pour ce que je suis, et pas seulement parce que je pardonne tout le temps et parce que pour ce que je fais, mais pour ce que je suis.
Et vous avez le droit à ça? Comme chaque être humain, vous avez le droit.
Oui.
Et à partir du moment où ça sera une évidence pour vous, alors vous rencontrerez quelqu'un qui vous fera du bien.
Bah, je ne suis pas prête à rencontrer quelqu'un, je pense.
Mais quelqu'un qui sera bon pour vous et pas toxique.
Oui, bah maintenant j'ai un peu peur de
parce que vous n'êtes pas prête.
Mmh.
Parce que sans doute vous prenez conscience aussi qu'il va falloir changer.
Oui, c'est ça. Je prends conscience qu'il va falloir changer, que je dois prendre des décisions qui ne vont pas être faciles, mais que je dois les prendre. Prendre mes responsabilités d'adulte, en fait, ne plus être la petite fille de papa. Et puis avoir le droit au respect.
Je me demande si votre père n'était pas un grand manipulateur, lui aussi, non ?
Je ne sais pas.
Avec le temps, ça a dû s'estomper. Mais pour vivre dans deux foyers en même temps et faire accepter à ces femmes la présence l'une de l'autre jusqu'à ce que la maîtresse de votre père devienne votre marraine.
Elle était déjà ma marraine. C'est elle qui a demandé à être ma marraine. J'ai été baptisée à l'âge de 5 ans et c'est elle qui a demandé à être ma marraine et ma mère l'a acceptée.
Enfin, tout ça est assez pervers, je trouve. Vous voyez ?
Oui.
Assez pervers. En tout cas, il faut apprendre à vous protéger.
Oui, c'est ça. Je dois apprendre à me protéger, c'est ce que mes enfants me disent.
Et à être respecté.
À être respecté et à reprendre des limites qui sont justes.
Oui, qui sont justes pour vous.
Qui sont justes pour moi, oui. Ne plus repousser les limites en fonction des autres, mais...
Oui.
Et moi, je retrouve des limites raisonnables, quoi. Enfin,
normales, on va dire.
Normales.
Que vous appreniez une certaine normalité. Ça, ça prend la normalité. En tout cas, il faut aller reconsulter, Léna. D'accord ?
D'accord.
Dès le mois de janvier, il faut que vous trouviez quelqu'un maintenant là où vous habitez. C'est indispensable.
D'accord.
Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire tout seul non plus.
D'accord.
D'accord ? Ça me semble vraiment, vraiment fondamental. Et puis, vous pouvez vous dire que pour cette nouvelle année qui arrive, vous allez changer.
C'est ce que je me dis.
Bon. Donc, ne plus aller là-bas pour vos vacances, ne plus... accepter de vous faire frapper. Voilà. Et en tout cas, je pense que votre demi-frère est aussi dans la souffrance. Hein,
ah ben, je pense aussi.
Pour avoir cette vie-là. Donc, il y a beaucoup de dommages dans cette famille. Je vous souhaite en tout cas beaucoup de courage, Léna, et un très beau passage vers cette nouvelle année.
Merci beaucoup, Sabine, et puis bonne fête à vous.
Merci, merci d'avoir été avec nous ce soir. Quant à nous, on se retrouve demain soir à 22h30 et nous passerons vers cette année 2019 ensemble. Nous serons ensemble pour 2h30 de Libre Antenne. Alors j'espère vous retrouver dès demain. Merci d'avoir été avec nous ce soir.